en direct et par téléphone Pierre Cassonogues. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous au téléphone. Alors, ma première question, vous êtes mathématicien, vous êtes également philosophe, mais vous faites œuvre de fiction, ou en tout cas, vous imposez une sorte de traitement fictionnel à vos textes. En quoi ce n'est pas antinomique ?
Alors, d'abord, je ne suis pas mathématicien. À savoir, j'ai fait des études de mathématiques et je réfléchis sur les mathématiques et la logique sans moi-même produire des résultats de logique ou de mathématiques. Donc, je ne suis pas mathématicien. Alors, du coup, il y aurait deux façons de comprendre votre question. La première, ce serait, serait-il antinomique pour un mathématicien de faire de la fiction ? Alors, je ne crois pas. J'essaye de montrer, justement, à propos de Gödel en particulier, que il y a dans les mathématiques et la logique un rapport à la fiction et à l'imaginaire. C'est-à-dire que, sans poser la question du statut du texte de mathématiques lui-même, et on pourrait demander dans quelle mesure il n'est pas lui-même une fiction, mais sans poser cette question, les concepts du mathématicien ont, à mon avis, un rapport, ou c'est ce que j'essaye de montrer, un rapport avec les images de la littérature. Et un exemple sur lequel j'ai travaillé, c'est celui de la machine. Et puis une deuxième façon de comprendre votre question, c'est le rôle de la fiction dans mon travail de philosophe. Et là, de philosophe sur le corps, par exemple, ou sur les mathématiques. Et là, j'essaye en effet, dans ce travail de philosophe, d'utiliser la fiction et de lui donner, disons, le statut d'une méthode en réalité.
D'accord. Alors, votre écriture, dans un essai comme Les démons de Gödel, on va commencer par Les démons de Gödel, il y a un traitement fictionnel quand même. Est-ce que dans ce livre, il y a quelque chose à voir avec la fiction ?
Oui, alors, dans ce livre, la fiction a plusieurs rôles. Disons que mon but dans Les démons de Gödel était d'essayer d'imaginer le monde de Gödel. Imaginez dans quel monde vivait Gödel, et de me mettre, pour ainsi dire, à la place de Gödel. Et pour cela, je ne pouvais le faire que dans la fiction. Donc les fictions ont d'abord pour fonction d'introduire au monde de Gödel. Par ailleurs, ce monde de Gödel est un monde très étrange. Gödel croyait donc en l'existence des objets mathématiques, mais également en celle d'anges et de démons, aussi bien à l'intérieur du monde des mathématiques que dans le monde quotidien. Il y a des anecdotes où Gödel, parlant avec un autre logicien, Kreisel, s'arrête devant un bosquet, refusant de traverser ce bosquet, persuadé qu'il est hanté par des démons. Alors, pour moi, ces objets, ces démons en particulier, sont des objets imaginaires, des objets finalement de fiction. Alors on peut réfléchir sur eux, on peut s'interroger quel est sur leur statut ou leur vie, et Gödel le fait, mais pour moi, la véritable façon de les faire entrer en scène, c'est de les mettre en scène, c'est de les présenter dans des fictions. Et donc, les fictions ont cette deuxième fonction d'offrir un accès à ces êtres bizarres auxquels croyait Gödel et qui interviennent dans sa philosophie de la logique. Et plus largement, dans ce travail, mais aussi dans d'autres travaux en cours, j'essaye de donner à la fiction le statut d'une méthode, avec d'une méthode plus systématique que je ne le fais dans Les démons de Gödel, avec l'idée qu'au fond, la fiction détermine le possible, que est possible une situation ou un être qui est décrit dans une fiction à laquelle on adhère. C'est-à-dire que lorsqu'on lit une fiction, lorsqu'on lit une histoire, un récit, eh bien, si on adhère à ce récit, si on le suit, si on s'intéresse aux personnages, c'est bien qu'on considère ces personnages comme des êtres possibles, même si c'est le statut, les caractères de ces personnages peuvent heurter notre sens commun et nos catégories premières. Et donc, à mes yeux, là, ce n'est pas à la philosophie de décider, ou à la philosophie en tant que telle, de décider ce qui est possible, c'est d'abord à la fiction, et le philosophe doit, en quelque sorte, suivre ce ce que la fiction lui montre comme possible, suivre la fiction. Pour donner un exemple qui sort des démons de Gödel, l'homme invisible. Eh bien justement, la science par exemple nous dirait que l'homme invisible est un être impossible. Pourquoi ? Parce que l'homme invisible, donc, il a cette particularité de continuer de voir tout en étant invisible. Dans le roman de Wells, par exemple, ou dans le film, l'homme invisible voit alors qu'il est invisible. Or, il est transparent. Or, dans la physiologie de la vision, on voit parce que la lumière s'inscrit sur la rétine, et pour qu'elle s'inscrive sur la rétine, il faut que cette rétine ne soit pas transparente. Si la rétine est parfaitement transparente, la lumière passe à travers, et l'homme invisible devrait être aveugle. Mais justement, la fiction nous montre que l'homme invisible est impossible, en un sens que il n'est peut-être pas possible dans le monde où nous vivons, mais nous pouvons nous imaginer comme l'homme invisible. Donc, la possibilité de l'homme invisible doit être prise en compte par le philosophe lorsqu'il analyse la fiction, la vision. Et ici, la fiction devient, en tant qu'elle détermine le possible, donne lieu ou conduit à une véritable méthode philosophique. Ce serait donc une troisième fonction de la fiction, de servir de méthode en philosophie, par cela qu'elle détermine le possible.
Est-ce que c'est la méthode que vous avez employée justement pour vous approprier cette peur des êtres bizarres de Gödel ? Est-ce que vous en faites une peur fictionnelle ?
Oui, enfin, disons que je n'ai pas peur moi-même des démons lorsque je
non, marche tout à
dans
fait.
La forêt, donc cela relève de la fiction. Oui, disons que dans les démons de Gödel, la fiction a vraiment pour but d'essayer d'approcher ce monde et les êtres auxquels croyait Gödel. Et ces démons ou ces gens, il y a toute une série de réflexions dans les textes de Gödel sur des êtres rationnels non humains. Et Gödel s'interroge en particulier sur les mathématiques de ces êtres rationnels non humains ou sur leur expérience, l'expérience qu'ils auraient en première personne. Comment vivrait un démon ou un ange ? Et pour donner corps à ces réflexions de Gödel, j'utilise effectivement la fiction comme une façon d'introduire ces êtres qui, si vous voulez, m'intéressent dans la mesure où ils représentent une part de la pensée de Gödel, une part importante, je crois, mais qui en même temps reste pour moi tout à fait en dehors du monde réel.
Alors justement, vous faites dans ce livre Les démons de Gödel le lien entre ces peurs, et vous dites qu'elles sont à l'origine du théorème d'incomplétude.
Oui, alors...
Est-ce qu'elles en sont à l'origine, ou est-ce que c'est un peu grâce à ces peurs que Gödel a pu établir son théorème d'incomplétude ?
Alors, disons que j'essaye de retrouver dans la logique de Gödel, et en particulier dans le théorème d'incomplétude, certaines, des traces de ces peurs. Alors, je ne voudrais pas dire que, pour plusieurs raisons, je ne voudrais pas dire que ces peurs, ou entre guillemets la folie de Gödel, expliquerait son travail logique. Pour plusieurs raisons, c'est que d'un côté, on peut, comme Gödel, avoir toutes sortes de paranoïa et de peurs sans être un logicien du génie de Gödel, et que d'autre part, à l'inverse, on peut aussi suivre la logique de Gödel, on peut s'intéresser aux résultats logiques de Gödel sans soi-même avoir ses peurs. Donc ce lien que j'essaye d'établir entre la logique de Gödel et sa folie, entre guillemets, je pense qu'il y a réellement un lien, mais que ce lien n'est pas exigé par la logique de Gödel. Et en cela ce lien de la folie à la logique, dans le cas de Gödel, pose la question pour moi du contexte subjectif de la logique en général. À savoir, si on voit que dans le cas de Gödel, son travail logique est lié à toute une série, son travail logique et son intérêt pour la logique est lié à une série de peurs ou à des préoccupations que l'on peut dire imaginaires, peut-on dire que notre propre intérêt pour la logique est pur ou purement technique ? Ou bien est-ce qu'il est lié à d'autres peurs, d'autres images que nous ne voyons pas précisément parce que nous y participons ? Donc, si vous voulez, ce lien entre logique et folie dans le cas de Gödel pose à mes yeux la question du contexte de notre propre logique. Cela dit, la logique elle-même semble être ambiguë et on peut tout à fait, évidemment, suivre les résultats de Gödel, s'intéresser aux résultats de Gödel, sans participer soi-même aux peurs de Gödel. Donc, ces peurs, elles n'expliquent pas entièrement, disons, les résultats de Gödel, le travail logique de Gödel. Bon, en ce qui concerne le théorème d'incomplétude plus particulièrement, donc que dit, donc c'est le résultat le plus célèbre de Gödel, c'est un résultat qu'il démontre en 1930, qui est publié en 1931, donc Gödel est très jeune, il a 24 ans, et c'est le théorème qui le rendra célèbre. Alors que dit-il? Pour le reformuler avec les machines de Turing, tel qu'il le sera à partir de 1937, et pour dire vite, le théorème d'incomplétude montre qu'une machine ne peut pas déduire toutes les propositions vraies de l'arithmétique élémentaire. C'est-à-dire, si vous prenez une machine comme un ordinateur qui ne tomberait jamais en panne, qui aurait à sa disposition une quantité infinie de papier, eh bien, un tel ordinateur ne pourra pas déduire toutes les propositions vraies de l'arithmétique de la théorie des nombres. Cela veut dire que si nous sommes nous-mêmes des machines, comme des ordinateurs, ou ce qui n'est pas absurde, parce qu'il se peut que notre cerveau soit lui-même comparable à un ordinateur, eh bien dans ce cas, nous ne pourrons pas nous-mêmes, l'esprit humain ne pourra pas déterminer toutes les propositions vraies de l'arithmétique élémentaire. Alors, ce théorème, je le rapproche d'une peur que Gödel avoue à plusieurs reprises à certains de ses amis, qui est celle d'être hypnotisé ou observé à son insu. Alors, quel est le rapport entre cette peur et ce théorème? Eh bien, elle tient à la démonstration du théorème. Et sans entrer dans les détails, disons que la démonstration passe d'abord par la distinction entre deux niveaux, un niveau métamathématique et un niveau mathématique. La métamathématique, c'est une série de réflexions sur la mathématique. Et cette distinction entre métamathématique et mathématique est mise en place avant Gödel par un autre mathématicien, Hilbert. Mais ce que fait Gödel, c'est de traduire la métamathématique à l'intérieur de la mathématique. C'est-à-dire que les réflexions que l'on peut faire sur les mathématiques, Gödel les code par des propositions mathématiques. Alors que se passe-t-il finalement? Eh bien, les propositions mathématiques prennent un double sens. Elles ont leur sens mathématique, elles expriment des relations entre des nombres, par exemple, et puis elles ont leur sens métamathématique. Elles expriment des réflexions sur les mathématiques. Et c'est un peu donc comme si le mathématicien, dans son travail mathématique, était dirigé et observé à son insu par un métamathématicien. C'est-à-dire que les propositions que démontre le mathématicien, eh bien, elles ont un autre sens que lui-même ne comprend pas et qui relève de la métamathématique. Et donc, il y a bien quelque chose que l'on peut rapprocher de cette peur qu'avoue Gödel d'avoir été hypnotisé, c'est-à-dire que ses gestes ont un autre sens que lui-même ne comprend pas. Et cette dualité, elle est présente à l'intérieur de la démonstration du théorème d'incomplétude. Donc on a bien un lien entre une peur de Gödel, un aspect de sa folie, entre guillemets, et puis son travail mathématique. Mais évidemment, on s'intéresse au théorème d'incomplétude sans avoir soi-même la peur d'être hypnotisé. Donc cette peur d'être hypnotisé, elle peut s'exprimer dans le théorème d'incomplétude, mais alors il faut reconnaître que le théorème d'incomplétude est lui-même en quelque sorte neutre ou ambigu et qu'il peut se comprendre dans d'autres contextes indépendamment de cette peur.
Et comment, alors ça c'est le rapprochement que vous faites vous-même, comment Gödel lui fait le lien entre son travail de logicien et sa folie douce?
Alors, plusieurs choses. D'abord, Gödel lui-même ne pense pas être fou. Il a des symptômes qui me semblent incontestables. Donc, pour en donner quelques-uns, Gödel, donc l'un des plus marquants, hein, qui finira par tuer, Gödel a peur d'être empoisonné. Donc, il ne mange rien que sa femme n'ait d'abord goûté. Donc cela, c'est dès leur mariage, hein, autour de 1937. Sa femme commence à goûter ses plats et Gödel prend l'habitude de ne rien manger sans que sa femme ne l'ait goûté avant. Et il meurt donc au début de l'année 1979. Sa femme est hospitalisée. Bon, les deux Gödel sont assez vieux. Sa femme est hospitalisée. Gödel se trouve donc seul et il arrête à peu près de s'alimenter. Il arrête à peu près de s'alimenter de peur d'être empoisonné. Il y a d'autres. De façon très générale, Gödel a peur de toute une série de poisons, donc qui pourraient se trouver aussi bien dans l'alimentation que dans l'air. Il est persuadé, par exemple, que les réfrigérateurs laissent échapper des gaz qui l'empoisonnent. Et c'est au point, donc Adèle, sa femme, exige d'avoir un réfrigérateur. Gödel est persuadé que chacun des réfrigérateurs qu'ils achètent laisse échapper des gaz. Et c'est au point où le couple Gödel est célèbre parmi les magasins d'électroménager des environs de Princeton, la bourgade près de New York où ils habitent, pour changer de réfrigérateur fréquemment. Donc, de quelqu'un qui éviterait de passer à côté du réfrigérateur d'un oncle ou d'un collègue qui éviterait de passer à côté du réfrigérateur à cause des gaz, on dira que c'est un fou. Il me semble que c'est incontestable. Et Gödel, donc, est lui-même fou dans le même sens. Alors, ce livre, Les démons de Gödel, je ne dis jamais que Gödel est fou sans plus. Je dis toujours que Gödel est fou entre guillemets. Pourquoi ? Bien parce que je ne veux pas, au fond, juger du personnage de Gödel. Il me semble que je dis que Gödel est fou entre guillemets, en ce sens que Gödel est l'un de ces personnages dont on dit qu'ils sont fous. Je répète, d'un oncle qui ne mangerait rien sans que sa femme y ait goûté, on dira qu'il est fou. Gödel est fou dans le même sens. Mais ce qui m'intéresse, c'est en quelque sorte de prendre au sérieux sa folie pour essayer d'en retrouver des traces dans sa logique. Bon, pour répondre à votre question, ce lien entre la logique et la folie de Gödel, c'est en réalité moi qui l'établis. Et Gödel lui-même, malgré ses symptômes, je crois, ne pense pas du tout être fou. Et bon, il doit sans doute se rendre compte que certains de ses symptômes, ou qu'il a certains symptômes, mais justement, c'est le fait de la folie que de s'ignorer. Lorsque Gödel meurt d'avoir cessé de s'alimenter, c'est qu'il est persuadé qu'on cherche à l'empoisonner et il ne se rend pas compte que c'est de la folie, justement.
Une de ces folies, c'est de croire au voyage dans le temps, notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe dans votre tête lorsque vous trouvez... donc, je précise que vous avez lire aux États-Unis les notes de Gödel. Et à un moment donné, dans votre recherche, vous trouvez au verso d'une des fiches de lecture de Gödel « I will be back in a moment, Kurt ». Quelles sont les implications de...
découverte surprenante, d'autant plus... Donc j'ai passé assez longtemps aux archives de Gödel, hein, à sa mort. Donc les papiers de Gödel, Gödel avait classé tous ses pieds, sa femme donc qui en a hérité, et sa femme Adèle les a donnés, qui lui a survécu de 2 ou 3 ans, les a donnés à l'Institut for Advanced Studies, qui employait Gödel dans la deuxième partie de sa vie aux États-Unis. Et donc les papiers sont maintenant conservés dans des archives et dans lesquelles j'ai passé plusieurs mois. Et bon, il y a des papiers tout à fait intéressants et dont la lecture est, disons, palpitante. Et puis il y a des boîtes qui sont beaucoup plus arides, dont la lecture est beaucoup plus fastidieuse. Et en particulier la boîte dans laquelle se trouvent réunies les fiches de bibliothèque. Gödel était un grand lecteur, il empruntait beaucoup de livres à la bibliothèque et conservait chacune de ses fiches. Alors, l'intérêt de cette boîte, c'est qu'elle permet de savoir ce que Gödel a lu et à quelle époque il l'a lu. Mais la plupart des livres qu'il emprunte ne sont pas très intéressants et il faut donc passer des après-midi entières à regarder une à une ses fiches de bibliothèque. C'est donc assez fastidieux et ce sont des après-midi qui peuvent paraître longues et brusquement, un après-midi neigeux, alors que je m'apprêtais à digérer tranquillement, je tourne une fiche et je vois cette phrase, donc « I'll be back in a moment », je reviens dans un instant, signé Kurt. Et c'était tout à fait c'était presque effrayant de la part de Gödel, qui à la fois croyait donc au voyage dans le temps, mais croyait aussi à l'existence des fantômes, de voir cette fiche qui semblait un message. Oui, dans ce monde de Gödel plein de paranoïa, cette fiche qui semblait un message m'étant adressé. Alors, un autre point intrigant dans le même genre concerne un sorte de mystère dans la vie de Gödel. Gödel fait une première crise d'angoisse en 1936, il est aux États-Unis, il habite Vienne à l'époque, il est en voyage aux États-Unis, et brusquement, on ne sait pas pourquoi, il décide d'interrompre son voyage et de revenir à Vienne. Et donc il est invité par l'université de Princeton, mais il quitte brusquement Princeton, en perdant le salaire pourtant important que devait lui verser Princeton, et il revient en Europe, il prend le paquebot jusqu'au Havre. Du Havre, il prend le train jusqu'à Paris, et à Paris, il s'arrête, il appelle son frère, qui est médecin, pour qu'il vienne le chercher à Paris. Et son frère lui-même dit qu'il refuse d'aller chercher Kurt Gödel, donc le logicien, à Paris, et le laisse rentrer. Et donc, en regardant autre chose fastidieuse, en regardant les factures de Gödel, je me suis aperçu que lors de ce séjour à Paris en 1936, Gödel avait pourtant payé deux chambres d'hôtel. Dans la note de l'hôtel, Gödel paye deux chambres. Et donc, j'ai essayé de m'interroger sur ce deuxième locataire qui était Gödel. De qui pouvait-il s'agir? Est-ce que justement il s'agissait d'un démon, d'un fantôme, du diable en personne, d'un autre Gödel suite à un voyage dans le temps? Bon, c'était une des spéculations qui meublait des après-midi au-dessus de boîtes fastidieuses. En ce qui concerne le voyage dans le temps, Gödel fait plus que d'y croire, parce que il montre, c'est un résultat physique, que dans la théorie de la relativité générale, il y a des modèles, c'est-à-dire des univers qui vérifient les lois de la théorie de la relativité générale et qui autorisent le voyage dans le temps. Et au moment où écrit Gödel, en 1949, on ne sait pas si notre univers n'est pas l'un de ces univers. Et donc, ça aurait été que notre univers aurait autorisé le voyage dans le temps. Bon, et depuis, on a établi que notre univers n'était pas un de ces univers de Gödel. Mais au moment où écrit Gödel, le voyage dans le temps est une possibilité physique.
Alors, on va quitter le monde de Gödel pour aller dans votre autre livre, Une histoire de machines, de vampires et de fous, paru chez Vrin. Dans ce livre, Une histoire de machines, de vampires et de fous, qui se compose de deux parties, une partie complètement fictionnelle et une partie qui est plutôt un texte théorique, vous dites qu'il y a eu au 19e siècle une rupture dans l'imaginaire. C'est quoi cette rupture?
Oui, alors une rupture dans l'image de la machine ou dans l'image de l'homme comme machine. À savoir, tout au long du XVIIe siècle, lorsque l'on parle de l'homme-machine, disons-le par anticipation, bien que le terme soit forgé par Lemaître au XVIIIe siècle, lorsqu'on parle de l'homme, disons, comme une machine, la machine en question est une sorte d'automate de foire, c'est-à-dire un automate, une machine qui, comme une horloge, qui une fois mise en branle, semble porter en elle-même, posséder elle-même le principe de son mouvement et qui imite de l'extérieur les mouvements d'un être humain. Alors que pour nous, lorsque nous parlons de l'homme comme d'une machine, lorsque nous parlons des robots par exemple, nous pensons essentiellement à une machine à calculer. Ce à quoi on s'intéresse dans le robot, c'est essentiellement à son cerveau. Si on lit la science-fiction du XXe siècle, il est clair que l'appareil digestif, par exemple, du robot importe peu. On n'en leur parle pratiquement pas. Les générations de robots qui se suivent dans des romans comme ceux d'Asimov, par exemple, sont déterminées essentiellement par les progrès techniques dans leur cerveau. Ce n'est pas du tout le cas au XVIIe siècle, où on s'intéresse beaucoup à la digestion de ces machines, par exemple, et il y a justement une sorte d'exploit réalisé par Vaucanson, dont en fait l'anniversaire, disons, qui est de un exploit qui est de réaliser un canard qui digère, c'est-à-dire un canard à qui on donne des graines et qui produit quelque chose ressemblant à des excréments. C'est quelque chose qui nous semble totalement farfelu, parce que pour nous, le robot, c'est essentiellement son cerveau. Donc, une rupture dans l'image de la machine, on passe d'un automate de foire à une machine à calculer. Et ce n'est pas la même fonction qu'il manque à ces machines pour représenter l'homme. À savoir que au XVIIe siècle, la question concerne essentiellement la parole. À savoir, Descartes, par exemple, est convaincu que jamais une machine ne pourra réellement user de la parole comme un être humain. Dans la science-fiction, nous sommes bien convaincus que les machines peuvent parler. Les robots, ils parlent. Ce qui leur manque en général, ce n'est pas la parole, mais l'émotion. C'est-à-dire, dans notre imaginaire, or il y a évidemment des contre-exemples, mais dans notre imaginaire en général, le robot est un personnage impassible. C'est un personnage qui n'a pas d'émotion ou n'a pas exactement, qui n'arrive pas à utiliser, à avoir des émotions honnêtes en quelque sorte. Et alors que, au contraire, pour Descartes, les émotions ne représentent absolument pas un problème. Descartes est bien convaincu que les hommes-machines peuvent avoir des émotions, ou au moins montrer avoir tous les signes extérieurs de l'émotion. Donc, nous n'avons pas les mêmes machines dans notre imaginaire, et ce n'est pas la même fonction qui leur manque. Et alors, cette fonction qui manque à l'homme-machine, elle est dans notre imaginaire portée par un second personnage qui fait contrepoids, si vous voulez, à l'image de l'homme comme machine. Et j'essaye de montrer donc que dans la littérature et la philosophie du XVIIe siècle, ce deuxième personnage qui fait contrepoids à la machine et vient porter la fonction qui manque à la machine, c'est-à-dire la parole, est le personnage du fou. La machine est opposée au fou, et le fou est le détenteur de la parole. C'est-à-dire, on le voit très bien dans les textes de Descartes, cette parole dont la machine est incapable, elle est essentiellement celle du fou. C'est le fou bavard, le fou qui parle, qui réussit à produire du sens sans suivre la raison. Eh bien, c'est exactement cette parole qui produit du sens sans suivre la raison dont la machine est incapable. Alors, j'essaye de montrer que dans la littérature de science-fiction et dans la littérature fantastique, ce personnage qui porte ce qui manque à notre robot, c'est-à-dire l'émotion, peut essentiellement être compris comme un vampire. Et si vous voulez, le vampire me semble être dans notre imaginaire l'espèce de complément, le complément, si l'on veut, du robot. Et ça me semble on peut opposer ainsi Dracula, donc le vampire, et Frankenstein, que l'on concevrait alors comme un robot. Ces deux personnages, hein, Dracula et Frankenstein, naissent presque en même temps, hein, puisque naissent presque en même temps, enfin dans les mêmes jours. Mais je crois que si on va par exemple dans un vidéoclub et que l'on regarde au rayon films fantastiques, eh bien les deux plus grands personnages des films fantastiques sont le vampire et le robot. Il y a bien quelques histoires de sorcières ou de fantômes, mais beaucoup moins que des vampires et des robots, qui sont donc les deux grands personnages de notre imaginaire et deux personnages qui se complètent. Le vampire cristallise l'émotion et le désir, alors que la machine cristallise le calcul, et un calcul apathique, sans émotion, sans passion, un calcul impassible.
Alors, vous dites que cet imaginaire, pour prendre celui de la machine, que cet imaginaire de la machine, il est historique, mais il est commun à la fois aux sciences et à la littérature.
Oui, alors historique en ce sens qu'il y a une transformation de notre imaginaire, que notre imaginaire n'est pas le même que celui du XVIIe siècle, et donc il y a eu une rupture. Ensuite, alors je ne veux pas dire qu'il y a... Donc on pourrait imaginer que... on pourrait penser que ces imaginaires se succèdent, je ne veux pas forcément dire qu'il y a une histoire à l'intérieur même de l'imaginaire. Donc historique en ce sens, est commun en effet à la littérature et aux sciences, à savoir j'essaye de montrer que cette opposition au XVIIe entre la machine et le fou, et pour nous à l'époque contemporaine entre la machine et le vampire, elle se retrouve dans des domaines différents, et en particulier dans la littérature, dans les sciences et dans la philosophie, sous différentes formes. Alors j'essaye dans un texte de Turing en particulier de montrer que Turing lui-même, qui est donc le logicien qui a vraiment fixé la machine comme concept logique, que Turing la complète par un dispositif, la complète pour représenter l'homme entier par un dispositif qu'il appelle l'oracle, mais que l'on peut en effet comparer à un vampire. Et donc de montrer que cette opposition vampire versus machine se retrouve dans différents domaines. Un domaine où elle se retrouverait, c'est celui de la critique politique, où depuis Marx, on trouverait opposés les ouvriers associés à des machines aux rentiers ou aux capitalistes décrits comme un vampire vivant de la vie ou du sang ou du travail des ouvriers. Donc une opposition, et donc la critique politique qui n'a pas de rapport évident avec la littérature. Donc essayer de montrer comment cette même opposition se retrouve sous différentes formes dans différents domaines. Essayer de mettre en évidence une sorte de cohérence au sein des images que nous utilisons dans différents domaines. Et c'est pour ça que je disais au début que, à mes yeux, les mathématiques et la logique ont eux-mêmes rapport à l'imaginaire et qu'elles utilisent elles-mêmes certaines figures de notre imaginaire comme celle de la machine.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Pierre Kasounoguès. Merci infiniment d'avoir bien accepté cette interview et de la réaliser en direct par téléphone. Merci beaucoup.